Et on continue dans la Rose des Vents. Ce soir, nous parlons du Pérou. Nous parlons également d'agriculture et de souveraineté alimentaire, un concept développé dans les années 90 par le mouvement paysan international, la Via Campesina. Alors, Daniel, qu'est-ce qu'on entend au juste par ce concept ?
Alors, la souveraineté alimentaire, c'est le droit des peuples à accéder à une alimentation saine et culturellement appropriée, produite avec des méthodes durables. C'est aussi le droit des peuples de disposer de leurs terres et de développer et de définir leur propre système agricole et alimentaire, librement, sans être conditionné et soumis au contrôle en fait, de l'industrie agroalimentaire.
Puis alors, dans quelle mesure est-ce que le Pérou défend ce principe de souveraineté alimentaire ?
Alors, le principe semble rester l'apanage de la petite paysannerie. L'agriculture d'exportation étant un pilier de l'économie péruvienne, le modèle agro-industriel est de plus en plus encouragé par les politiques gouvernementales au détriment des petits paysans. C'est dans ce cadre qu'est née en 2011 Eni Suisse, une association basée à Chavannes-près-Renan pour promouvoir et défendre la souveraineté alimentaire dans les Andes péruviennes grâce à des projets écologiques.
Et puis pour en parler ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Dalila Atalaya Huerta. Bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue sur Radio Janko. Vous êtes présidente de l'association Eni Suisse basée à Chavannes-près-Renan, comme Daniel vient de le préciser. Et à vos côtés, Michel Conti, bonsoir. Vous êtes trésorier et membre de Eni Suisse. En 2016, Eni Suisse reçoit le premier prix vaudois Diaspora et Développement, un prix lancé par les fédérations de coopération genevoise et vaudoise, un prix qui vise à promouvoir l'implication des migrants de Suisse lémanique dans le développement de leur pays d'origine. Quel projet vous a conduit à recevoir ce prix ?
Voilà, donc je réponds à votre question. En effet, Eni Suisse a gagné le prix Diaspora et Développement. C'est un prix donné par la FEDEBACO. Et en fait, nous avons gagné ces prix-là pour un projet assainissement écologique dans les villages de Poyol. Poyol est un petit village des Andes péruviens situé à environ 3500 mètres. Ce projet est né d'une demande urgente des villageois, car les fosses qui collectent les eaux noires ont débordé. Ces fosses, trois en l'occurrence, se trouvent à quelques mètres d'un ruisseau qui traverse plusieurs villages plus bas. Avec ces projets, nous espérons aider à solutionner plusieurs problèmes, à savoir une diminution des maladies liées à la contamination de ruisseaux, à épargner de l'eau. Il faut savoir que Poyol se trouve dans la chaîne noire des Andes péruviens et là, il y a un déficit d'eau. Et aussi avoir la terre noire susceptible d'être utilisée pour l'agriculture et pour des jardins, par exemple.
Quel est le principe des toilettes sèches de manière très succincte ?
Voilà. En fait, les toilettes sèches, les principes, c'est d'épargner l'eau et d'éviter la pollution de l'eau aussi, des rivières. Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est que toutes les solides et liquides. Bon, en fait, il y a plusieurs méthodes. Donc, les méthodes que nous sommes en train d'utiliser, c'est la méthode à séparation d'urine. Donc, tout ce qui est solide va dans son contenant et l'urine va ailleurs. Et donc, après quelques temps, donc là, on met de la sciure, donc c'est de la matière carbonée, qui, depuis quelques mois, aide à, en fait, on aura de la terre.
Donc c'est une forme d'engrais quelque part.
Oui, exactement. En fait, ça dépend parce que si tout va ensemble entre les liquides et les solides, donc on aura du compost. Mais si c'est séparé, on aura la terre noire. Donc c'est ce que nous on a décidé de faire ça. Ou les villageois plutôt ont voulu faire ça.
Quels sont les autres projets portés par Eni Suisse ?
Voilà. Donc on a d'autres projets. Donc un projet c'est il faut préciser que nous avons commencé avec des jardins potagers et ils continuent toujours à pousser. Et ensuite, nous aidons à une famille à la conversion, disons, d'une ferme conventionnelle, entre guillemets, parce qu'en fait, conventionnel, c'est pas la même. Le conventionnel au Pérou, c'est pas la même chose qu'ici, hein, c'est des petites fermes. Et à changer sa façon de produire avec des façons plutôt écologiques, une forme écologique. Et ça, dans le but de montrer que l'agroécologie est possible, parce que c'est difficile de faire accepter ça. Et mais pourtant, il y a des années,
que ça existe.
Ça existait. Et ensuite, nous avons aussi soutenu, en fait, avec des jardins potagers à une école, Et malheureusement, ça s'est fini, mais pas parce que nous, on l'a décidé, sinon parce que l'enseignante ne trouvait pas les soutiens des familles qui voulaient profiter un peu des récoltes, mais pas aider.
Mais il y avait en fait un intérêt pédagogique derrière ce
projet. Très intéressant. En fait, cette école, c'est une école qui accueille des enfants qui ont des problèmes d'apprentissage, mais aussi des problèmes familiaux. Donc, c'est des enfants qui, par exemple, ont perdu les parents, qui vivent avec les grands-pères, les grands-parents, avec la tante, etc. Et bien sûr, en fait, ce sont des familles qui ont des problèmes à la base. Et donc, ça a été très difficile pour l'enseignante. Donc, finalement, elle a dit qu'elle ne pouvait pas continuer avec ça parce que c'était un peu...
Mais un projet qui sera peut-être à redessiner, en fait.
Ah bah, on aimerait parce qu'en fait, oui, nous, avec nos ressources, les peu de ressources qu'on a, c'est difficile à continuer. Mais c'est vraiment, c'était un projet très, très intéressant. Elle disait qu'elle pouvait faire des maths, en fait, montrer des odeurs, des couleurs et tout ça avec les enfants... dans les jardins.
Il y avait une approche scientifique, c'est vraiment, par
oui,
les jardins.
Très, très intéressant.
Et pour revenir en fait au problème en fait des fermes conventionnelles qu'on veut transformer donc en fermes agricoles, pourquoi est-ce qu'il y a autant d'a priori dans le développement en fait de ces fermes agricoles?
Alors, c'est très
agroécologique,
difficile. Oui. Je pense que ça dépend énormément du statu quo ante, savoir ce que les gens faisaient au départ. Si on prend des paysans traditionnels, on peut imaginer qu'ils avaient une certaine diversité dans leur activité. Et avec un certain mirage productiviste, on peut imaginer justement qu'ils se sont laissés tenter par des cultures extensives avec tout ce qu'il faut pour soutenir cette production, avoir le meilleur rendement.
Quand on parle de culture extensive, c'est justement avec des engrais chimiques, hein,
voilà.
Notamment. D'accord.
De sorte que lorsqu'on veut parler d'agroécologie, on a un changement complet de paradigme. On est obligé de revenir sur des modèles où la diversité est le maître mot, c'est-à-dire qu'on va devoir peut-être travailler avec plein d'autres cultures auxquelles on n'était peut-être plus tellement habitué. Peut-être qu'on doit changer l'élevage, arriver peut-être à une autre production. Ce qui veut dire que ce sont d'autres métiers. Et je peux imaginer que tout changement comprend à la fois une énorme inquiétude de savoir si on a les compétences pour le faire, si on a les investissements pour le faire. Et en même temps, on peut dire que apprendre un nouveau métier suggère une énergie aussi formidable pendant toute une période où, si la terre a été massacrée par des produits chimiques, il va falloir peut-être des années jusqu'à ce qu'elle revienne à une certaine maturité.
Mais vous parlez de nouveaux métiers, mais c'est pourtant en fait une forme d'agriculture qui reposait en fait sur des connaissances ancestrales, quand on parle d'agroécologie.
Ah oui,
absolument.
Mon propos était de dire, revenons à l'agroécologie et quelle était la difficulté pour pouvoir reprendre ces activités ancestrales et familiales.
Oui, en fait, moi, je voudrais ajouter qu'il faut faire la différence entre les pays du Sud et les pays du Nord. Donc, ici, depuis longtemps, depuis plus de 40 ans, on pousse sur l'agriculture industrielle. Alors que dans les pays du Nord, par exemple le Pérou, ce n'est pas encore le cas total. En fait. Par contre, depuis un recensement, voilà, donc il y a des endroits où les gens, les paysans, ils ont beaucoup résisté. Donc, ils continuent encore de faire l'agriculture comme on le faisait avant. Mais aussi, en fait, l'idéologie dominante s'est vraiment mise dans la tête des gens qui, en fait, ils sont en train de ils croient qu'ils ne savent pas faire. Alors que, comme tu disais tout à l'heure, en fait, tous les savoirs, il faut juste récupérer les savoirs.
Là, je voulais juste donner une petite anecdote. À l'époque de Mao, quand il y a eu des grandes disettes, avec des millions de morts de famine, Mao avait décrété qu'il fallait éliminer tous les oiseaux parce que c'est eux qui mangeaient les graines et qui privaient la population de
pain. Nourriture.
Et une fois qu'ils ont combattu tous les oiseaux, il y a eu des récoltes absolument catastrophiques parce que les parasites ont envahi complètement les cultures.
Mais le développement de ces fermes agroécologiques, en fait, pourrait aboutir, en fait, soutenir plutôt les familles.
Oui.
Et l'ONU déclare en 2014 Année internationale de l'agriculture familiale. Quels sont les avantages de ce système comparativement à l'agroexportation et tout ce qui relève, en fait, de l'agriculture industrielle?
Alors, il y a peut-être 50 ans en arrière, les cultures en Chine, par exemple, étaient celles qui présentaient le meilleur rendement. parce qu'on travaillait peut-être plus proche, on n'avait peut-être pas les difficultés qu'on connaît avec des énormes surfaces qui vont nécessiter d'énormes investissements techniques.
Et quels sont aujourd'hui les principaux facteurs en fait, qui menacent la sécurité alimentaire au Pérou, de manière générale ?
Donc, je voudrais juste faire une différenciation entre ce que c'est souveraineté alimentaire et sécurité alimentaire. Donc, tout à l'heure, tu as bien dit ce que c'est la souveraineté alimentaire, donc je n'ai pas besoin de rajouter. Par contre, la sécurité alimentaire, c'est juste assurer que les gens ont à manger. Donc, on ne se pose pas la question d'où vient la nourriture, comment elle a été produite. Donc, si elle vient de Chine, de l'Inde, si elle était avec des OGM, etc., ce n'est pas le problème. Donc, c'est vraiment très délicat. Mais par contre, c'est vrai que oui, c'est très intéressant de tenir compte. Je dirais plutôt peut-être que au nom de la sécurité alimentaire, on est en train de tuer la souveraineté alimentaire.
Mais pourtant, le Pérou a des terres qui permettraient justement d'assurer une souveraineté alimentaire.
Oui.
On est bien d'accord.
Oui, bien sûr. Et jusqu'à certains temps, en fait, on a été souverain parce qu'en fait, on mangeait ce que nous, on produisait. On mangeait la quinoa, on mangeait la pomme de terre, etc. Mais maintenant, la façon de consommer occidentale, c'est tellement imposé partout.
Donc, les Andes, à 3500 mètres.
Donc, il y a justement, par exemple, un programme pour alimenter les enfants des écoles ou en fait, des endroits pauvres. Et donc, qu'est-ce qu'on amène dans ces programmes ? Des choses en sachet, en carton, alors que là, par exemple, les gens, ils savent produire de la quinoa, on les amène de la quinoa industrielle. Les gens, ils savent, en fait, ils sont du lait. Donc, on les ramène du lait en boîte. Et donc, en plus qu'on produit de la poubelle, en fait, des ordures, des cartons, etc., etc., on est en train d'échanger, on les amène des pâtes. Alors que là-bas, les gens, ils ont de la pomme de terre, ils ont énormément de choses, en fait, une variété, une diversité des choses à manger. Et on est en train, ils sont entre, en fait, les gouvernements péruviens, avec ces genres de politiques, est en train d'échanger la façon de s'alimenter
Mais pour revenir aux activités que vous développez, est-ce que vous êtes soutenu par le programme Tierra Sanaï Sobena ?
Non.
Pas du tout ?
Non,
mais alors, comment sont financés les projets de Eni Suisse ?
Et en fait, notre premier financement, c'est les marchés de Noël solidaires. Donc, je ne sais pas si vous avez, en fait, en décembre de chaque année, il y a un marché.
On a pu venir vous visiter quelquefois.
Voilà.
Fois, oui.
Et donc là, après, on a des adhérents, on n'est pas beaucoup. Et aussi, on a une association on a eu l'Église Sacré-Cœur qui nous a soutenu pendant 3 ans. Et maintenant, on a aussi une ex-intégrante d'Aini Suisse qui a fondé son association, qui est en train de soutenir. Mais on marche avec très, très peu de soutien financier.
Vous êtes volontaire.
C'est comme ça que fonctionne aussi une association de la sorte. Merci beaucoup Dalila Atalaya Huerta d'être venue nous parler ce soir de ce projet. Merci également à vous Michel Conti. N'oublions pas que Aini signifie en quechua réciprocité et solidarité. Merci beaucoup à vous deux d'être venus ce soir et merci à Daniel qui signe ce sujet.